Comme chaque vendredi, nous explorons un nouveau secteur de l'économie. Aujourd'hui, à l'heure de la course contre la montre pour enrayer l'épidémie, nous nous infiltrons dans les laboratoires où s'inventent et se fabriquent les vaccins contre la Covid. Jamais l'industrie pharmaceutique n'avait été confrontée à un tel défi. Produire des milliards de doses en l'espace de quelques mois et les livrer aux quatre coins du monde. Nous allons remonter la chaîne depuis la recherche en laboratoire jusqu'à l'arrivée du flacon à l'hôpital afin de mieux comprendre les enjeux économiques de ce marché qui allie intérêt public et privé. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. L'industrie pharmaceutique à l'épreuve de l'urgence, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir trois invités. Maurice Cassier, économiste et sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de brevets pharmaceutiques et d'accès aux médicaments. Marie-Paul Chieny, vaccinologue, directrice de recherche à l'INSERM et présidente du comité vaccin Covid-19. Et Nathalie Coutinet, économiste à l'université Paris 13 Nord et chercheuse au centre d'économie de l'université de Paris Nord. Une émission à écouter tout de suite en direct ou plus tard sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France.
La progression de notre campagne, vous le savez, a été retardée du fait de la décision que nous avons prise lundi avec le président de la République de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans l'attente de l'avis de l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament vient, il y a quelques minutes, de rendre l'avis que nous attendions. Il confirme que le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est non seulement très efficace pour lutter contre l'apparition de formes graves de la maladie, mais aussi un vaccin sûr, sans danger. Dès demain matin, la Haute Autorité de Santé française, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement, dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors les injections du vaccin AstraZeneca reprennent donc aujourd'hui en France. Le Premier ministre Jean Castex l'annonçait hier puisque l'Agence européenne des médicaments a en effet jugé, je cite, sûr et efficace ce vaccin contre le Covid-19. Est-ce que le gouvernement, en suspendant lundi les injections, n'a pas péché par excès de prudence, Marie-Paul Chieny? Et est-ce que cet épisode ne risque pas d'augmenter encore la méfiance à l'égard des vaccins?
Alors non, je pense qu'effectivement le gouvernement a fait preuve de prudence, mais c'était bien ce qui était attendu. On est dans une situation totalement inédite, inhabituelle, avec ces vaccins qui sont là et qui sont tout de suite déployés à de très grands nombres. Et donc il était effectivement important, en présence d'un signal, de prendre une pause pour regarder, pour étudier, afin de pouvoir donner après ça des résultats qui nous l'espérons, vont montrer à la population qu'on est transparent et que le gouvernement a soin de leur santé, même si ça fait un frein à la campagne vaccinale. Mmh. Alors il faut dire quand même que l'Agence européenne a reconnu qu'il pouvait y avoir un signal extrêmement rare dans des cas particuliers et que ceci restait à être analysé. Et effectivement, l'avis de la Haute Autorité de Santé qui va sortir va donner aussi un avis préférentiel d'âge qui va plutôt indiquer que les personnes en dessous de 55 ans devraient plutôt avoir un autre vaccin. Donc ça montre bien qu'il était nécessaire d'attendre.
Il faut rester prudent et il faut aussi souligner peut-être, Maurice Cassier, que cette mise sur le marché de plusieurs vaccins demeure un tour de force, puisque d'habitude il faut de 7 à 10 ans pour produire un vaccin et là les délais ont été réduits pour certains à environ 7 mois.
Alors c'est un tour de force et l'une des principales explications à l'entrée en lice de nombreux laboratoires et au développement très rapide, c'est les fonds publics massifs qui ont été injectés au début de l'année dernière, à partir de février-mars, pour soutenir à la fois la recherche clinique et également les premières industrialisations, c'est-à-dire le lancement en parallèle de l'organisation industrielle et des lignes de production. Et c'est vraiment sans doute ce qui est de plus remarquable dans cet épisode.
Les fonds publics, effectivement, ont été considérables, en particulier du côté des États-Unis. Nathalie Coutinet, il y a eu une véritable stratégie vaccinale, une stratégie d'État lancée par les États-Unis.
Oui, hein, les États-Unis ont beaucoup financé, notamment Moderna ou Sanofi. Donc effectivement, on estime que c'est plus de 10 milliards de dollars qui ont été donnés par le ministère de la Santé américain. Donc c'est effectivement des sommes considérables. L'Europe a participé de manière moindre et puis certains pays de manière indépendante, hein, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, ont aussi fortement financé. Pour vous donner une idée un petit peu, hein, Sanofi a reçu 2,1 milliards de dollars du gouvernement américain. AstraZeneca, 1,7 milliard du gouvernement américain, du gouvernement du Royaume-Uni et de la CEPI, de la coalition qui regroupait un certain nombre de partenaires pour financer le vaccin. Donc effectivement, les montants injectés sont loin d'être négligeables pour les acteurs.
Ce qu'il faut dire, Maurice Cassier, c'est que c'est une réussite pour les start-up de biotechnologie plus que pour les grands laboratoires. Il faut peut-être nous rappeler un petit peu comment se partage cette économie des vaccins, ce marché des vaccins.
Alors, juste quelques mots. Effectivement, c'est un nouveau système d'innovation qu'on a aussi pour les médicaments, qui s'est installé il y a une quarantaine d'années. Mais ce qu'il faut rappeler quand même pour les vaccins, c'est que avant les années 80, on a eu aussi un âge d'or des vaccins et de la vaccination, qui, avec très peu de brevets, très peu de propriétés intellectuelles, mais par contre, ils étaient tirés là aussi par la commande publique, par les programmes de vaccination nationaux ou internationaux, et qui ont fait qu'on a développé de très nombreux vaccins. Alors, à partir des années 80-90, en relation avec les nouvelles technologies, notamment du génie génétique, et qu'on voit aujourd'hui, donc avec les dernières générations de vaccins, il s'est mis en place un nouveau système économique entre la recherche fondamentale qui a joué, y compris aujourd'hui pour les vaccins. Par exemple, le vaccin Moderna, c'est un vaccin co-inventé avec des brevets, y compris en propre, des NIH, qui ont fourni une partie de la technologie du vaccin Moderna. Donc, entre recherche fondamentale, les sociétés de biotech qui sont essaimées d'ailleurs largement des universités et qui sont financées par un capital particulier qu'on appelle le capital risque qui intervient dans les fonds propres de l'entreprise et au gouvernement de l'entreprise. Et ensuite, les grandes pharma qui récupèrent pour industrialiser et commercialiser.
Comment expliquer Marie-Paul Kenny, que justement, c'est les grands laboratoires et commencer à sous-traiter cette recherche. Comme le disait Philippe Askenazy, l'économiste Philippe Askenazy, les laboratoires, depuis quelques décennies, finalement, ne trouvaient plus intéressant le fait d'investir dans les vaccins parce qu'il s'agit d'un traitement préventif qui est moins intéressant financièrement qu'un traitement curatif.
Oui, on a un problème effectivement là que les grandes pharma se sont trouvées dans une situation où la recherche du profit en fait était telle que ils ne pouvaient plus se permettre, si je peux presque le dire ça, vis-à-vis de leur conseil d'administration, de s'intéresser à des projets qui n'étaient pas qui cassaient pas la banque, si je peux dire. Et donc on a vu un désamour pour les vaccins et on a vu un désamour aussi pour les médicaments comme les antibiotiques qui étaient considérés effectivement et qui sont des médicaments qui doivent rester à un prix abordable au profit donc des médicaments contre les maladies rares pour lesquels les gens sont prêts à investir tout ce qui est possible et aussi contre le cancer. Donc on a un vrai modèle économique existant qu'il faut remettre en question, je crois, si on veut pouvoir s'assurer qu'on aura dans les années qui viennent les médicaments dont on a besoin.
Nathalie Coutinet. Nathalie Coutinet, pardon, sur l'évolution de ce modèle économique et sur l'arrivée des start-up sur le marché des vaccins.
Disons que l'arrivée des start-up sur le marché du vaccin est liée aussi à la technologie utilisée, hein, les biotechnologies qui sont finalement pour lesquelles la recherche se situe massivement dans les start-up et très peu dans les grosses pharma aujourd'hui. Donc ça explique aussi que le fait que les vaccins ARN messager ont tous été développés finalement avec des start-up, donc largement au départ par des start-up. Alors, c'est l'exemple de BioNTech, c'est l'exemple de Translate Bio qui est en train de travailler avec Sanofi. Donc on voit que dans les biotech en particulier, le modèle de recherche, il est vraiment associé aux startups.
Alors justement, comment la technologie ARN messager a-t-elle été mise au point? Je vous propose d'écouter l'une des pionnières de cette technologie, la chercheuse américaine d'origine hongroise, Katalin Karikó.
Nous étions dans l'ombre de la thérapie génique. Tous les efforts étaient concentrés dans ce domaine. Et très peu d'entreprises et de chercheurs avaient décidé de se consacrer à l'utilisation de l'ARN messager pour faire de la thérapie. Pendant des années, de 1989 jusqu'à 2005, j'ai demandé des subventions, des petites bourses ou encore des financements auprès d'investisseurs. Je me souviens d'une présentation qu'on avait faite à des investisseurs new-yorkais pour leur montrer le haut potentiel de l'ARN, comment il pourrait changer le monde. C'était trop novateur, ou alors nous n'étions pas de bons vendeurs.
Marie-Paul Kieny, on comprend qu'il a fallu des investissements absolument colossaux pour mettre au point cette technologie et que c'est vraiment la Covid-19 qui lui a permis d'émerger.
Oui, alors bon, je pense que c'était une technologie qui était devenue mûre. Hein. Mais dans le domaine des vaccins, c'est aussi, pour les vaccins qui existent, il y a beaucoup de vaccins qui ont des technologies plus ou moins anciennes et qui sont efficaces, très efficaces. Donc en fait, c'est difficile de faire percer une nouvelle technologie parce que c'est difficile de déplacer les vaccins qui existent déjà s'ils sont efficaces. Mais donc, ça faisait quand même une bonne dizaine d'années que cette technologie était en développement dans les laboratoires et la crise du Covid-19, comme le font souvent les crises d'ailleurs, a permis donc l'émergence de cette technologie qui est, je dirais, à ce qu'on voit actuellement, quasiment miraculeuse. Mais juste sur un point qu'on a discuté tout à l'heure, le fait que les biotech plutôt que les grandes entreprises sont à l'origine de l'innovation, ce qui est tout à fait vrai, mais dans ce cas-là, c'est aussi, il faut surtout pas négliger le rôle des universités et du secteur public, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est le NIH qui a financé ces inventions, enfin ces découvertes, et le NIH reçoit, comme toujours pour tous les projets qui financent, des brevets, enfin des droits plutôt sur la propriété intellectuelle, mais le NIH étant dans un pays qui favorise en fait l'innovation privée, n'utilise jamais les droits de brevets qu'ils ont acquis sur les technologies qu'ils financent.
C'est important de souligner effectivement, Maurice Cassier, ce financement qui est mixte, hein, de la recherche à la fois publique et privée.
Tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point parce qu'on a l'impression que les biotech, c'est un peu le sommet de l'iceberg. Et la base de l'iceberg, c'est le financement public de la recherche en santé aux États-Unis. Et si vous regardez les courbes de ce financement public de la recherche en santé depuis les années 90, c'est devenu d'ailleurs le premier poste de financement public de la recherche, tout secteur confondu aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a des start-up aux États-Unis qui naissent dans cet écosystème. Et d'ailleurs, en Europe, le pays qui pousse le plus sa recherche fondamentale, et avec des start-up et avec des vaccins ARN qui arrivent, c'est l'Allemagne. Et par contre, si nous, on est un peu le parent pauvre, il faut peut-être s'interroger là.
Alors justement, pourquoi est-ce qu'on est le parent pauvre, Nathalie Coutinet? C'est précisément à cause d'un investissement trop faible de l'État français dans la recherche fondamentale?
Oui, les universités sont depuis plusieurs années négligées, hein, même elles sont souvent suspectées de je ne sais pas trop quoi par les différents gouvernements, et que les gouvernements successifs, depuis quelques années, ont fait le choix d'un financement qu'on appelle indirect de l'innovation, via par exemple le Crédit Impôt Recherche. Et Crédit Impôt Recherche, on le sait, hein, maintenant, il y a plusieurs rapports qui ont été publiés, des rapports indépendants, qui montrent que c'est pas utilisé souvent. Enfin, c'est souvent utilisé pour autre chose que la recherche. Et puis, c'est pas un mode de financement qui convient bien à ces start-up. Parce que déduire les sommes investies dans la recherche d'un bénéfice parce qu'on est une start-up, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on n'a pas un modèle de financement aujourd'hui de la recherche, ni au niveau universitaire, ni même au niveau des start-up, qui est satisfaisant pour faire émerger l'innovation. Et accorder autant de subventions recherche à des grands groupes qui l'utilisent pas toujours pour la recherche, pourraient encore être gentils, c'est effectivement pas un mécanisme efficace. Mmh. Et puis en plus, il faut rajouter qu'on dépense aussi moins que les autres. Donc non seulement on dépense pas toujours très bien, mais les montants sont aussi plus faibles.
Des montants plus faibles et donc un financement insuffisant de la recherche, mais peut-être aussi des erreurs stratégiques qui ont été faites, Marie-Paul Kieny, du côté de Sanofi et qui expliquent aujourd'hui son retard.
Alors, je crois que Sanofi n'a pas fait une erreur stratégique. Je pense que le vaccin que Sanofi est en train de développer avec GlaxoSmithKline, GSK, est un candidat qui reste intéressant. Sanofi a fait une erreur technique. En fait, en voulant développer leur vaccin très rapidement, ils ont utilisé, on ne va pas entrer dans les détails, mais ils ont utilisé des réactifs commerciaux pour faire une des phases de leur développement, et ils n'avaient pas pris le temps ou le soin de valider ces réactifs. Donc du coup ils ont le premier vaccin qu'ils ont testé correspondait absolument pas à ce qu'ils voulaient faire, et donc ils ont été obligés d'arrêter et de recommencer à zéro. Donc c'est une erreur technique, alors que leur développement, le choix stratégique qu'ils ont fait de leur vaccin semble tout à fait approprié.
Mais est-ce que Sanofi n'a pas mené une stratégie d'optimisation de sa valeur actionnariale avec un certain nombre de conséquences, Nathalie Coutinet ?
Alors, depuis plusieurs années, effectivement, Sanofi a une stratégie de maximisation de la valeur actionnariale. Alors, ça n'explique pas l'erreur qui vient d'être décrite. Ce qui peut éventuellement expliquer l'erreur qui vient d'être décrite, c'est que depuis plusieurs années maintenant, il y a des plans sociaux qui se multiplient, notamment dans le secteur de la R&D, et qui montrent...
Mais plans sociaux, justement, liés à cette stratégie d'optimisation de la valeur actionnariale.
Oui, et liés aussi au déplacement, finalement, de la R&D de Sanofi vers les États-Unis et la Chine, qui est le futur grand marché à venir. Et puis, des engagements aussi sur des aires thérapeutiques, comme ça a été annoncé, avec l'idée de se réorienter vers l'oncologie, dont on a déjà parlé, parce que l'oncologie, c'est 35,3% du chiffre d'affaires des pharma, avec une augmentation de 20% entre 2018 et 2019, donc c'est énorme, et c'est quasiment la moitié en oncologie, la moitié des médicaments qui sont ce qu'on appelle dans le pipeline, c'est-à-dire qui sont dans des phases de recherche. Mmh. Donc on voit bien que les firmes, parce que c'est là où il y a la plus forte rentabilité, se dirige massivement vers l'oncologie et du coup délaisse d'autres aires thérapeutiques et sans doute aussi chez Sanofi. Alors même si ça n'a pas été annoncé et que là il n'y a pas de plan social sur la branche vaccin, sur la branche Sanofi Pasteur, il y en a eu précédemment.
Mmh. Maurice Cassier.
Oui, je pense qu'il y a une fragilisation de la recherche de Sanofi, double d'une part relativement aux autres groupes. Si vous voulez, les investissements en recherche ont été moins importants et Sanofi a reculé relativement en R&D par rapport aux autres grands groupes. Et ensuite, il y a un désinvestissement spécialement en France et en Europe, qui est assumé d'ailleurs dans les plans stratégiques de l'entreprise depuis plusieurs années. Et effectivement, quand on fragilise les équipes, donc bon, je pense que les chercheurs de Sanofi doivent ressentir une certaine frustration.
Mmh. Alors il y a effectivement ces difficultés du côté des grands groupes de la Big Pharma, mais il y a aussi ce qui a peut-être empêché certaines biotech de prendre une ampleur suffisante, Nathalie Coutinet, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a peut-être un manque aujourd'hui d'acteurs de capital risque en Europe.
Alors oui, il y a évidemment moins de capital risque en Europe qu'aux États-Unis, mais je suis pas certaine. Alors ça explique certains retards, mais je ne pense pas que ça soit le bon mode de financement de la R&D. C'est un mode efficace, ça c'est sûr, mais c'est un mode qui conduit à une financiarisation de plus en plus importante du secteur de la santé et notamment de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'un capital risqueur, comme on dit, qu'est-ce que ça veut ? Ça veut avoir la plus grosse rentabilité sur un investissement risqué. Et pour avoir une très grosse rentabilité, eh bien, on va ensuite, ça veut dire que le modèle, c'est de mettre ces startups en bourse, ou alors de les faire racheter à prix d'or par des big pharma, qui vont en retour exiger des médicaments à des prix très élevés pour rentabiliser finalement ces acquisitions très importantes. Donc, je pense pas que ce soit le mode de financement de l'innovation que l'Europe et la France doivent privilégier.
Maurice Cassier, vous partagez ce point de vue, oui, sur les risques de l'hyperfinanciarisation de ces biotechs ?
Oui, parce que le capital risque, si vous voulez, ça a été développé particulièrement, en même temps que les biotechs, d'ailleurs, dans les années 80. C'est parti avec Genentech au départ. Et c'est très coûteux en capital. Et si c'est très coûteux en capital, ça veut dire que ça demande des rentabilités très élevées. Et les rentabilités très élevées, c'est très sélectif en matière d'innovation. C'est-à-dire, comme on l'a rappelé, l'antibiothérapie, si vous voulez, on la financera pas comme ça. Donc on est en train de réfléchir en ce moment peut-être à d'autres modèles de financement de la recherche et de récompense et d'encouragement de l'innovation qui puissent ne pas laisser d'angle mort, et comme pour la vaccination pendant longtemps, et pour l'antibiothérapie aujourd'hui.
Aujourd'hui, le débat monte sur les droits de propriété intellectuelle. Quel impact ce modèle économique autour des brevets pharmaceutiques, Maurice Cassier, a-t-il justement sur la recherche et l'innovation ?
Justement, le système... Alors d'abord, ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est finalement que ce système très, très breveté, y compris pour les médicaments, pendant très longtemps... je dirais jusqu'aux années 40, on avait des brevets, mais c'était des brevets qui portaient sur les procédés de fabrication, mais pas sur les molécules. L'innovation la plus efficace dans le monde à l'époque, c'était l'Allemagne. L'Allemagne ne brevetait pas les médicaments, mais brevetait les procédés de synthèse chimique, ce qui favorisait l'émulation sur le plan de l'innovation, mais bloquait pas l'économie. Ensuite, à partir des années 40-50, on a eu une extension progressive de brevets de plus au pouvoir de monopole, parce qu'on peut régler le brevet différemment. Là, le pouvoir de monopole est devenu vraiment très important. Ça s'est diffusé vers les biotech dans les années 80-90 et ça s'est mondialisé avec les accords de l'OMC de 1994. Donc on a un système aujourd'hui où en fait on organise la captation d'une rente globale très importante sur le médicament.
Et en même
donc,
temps...
Donc le problème, c'est comment faire des escalades et comment faire varier les modèles d'innovation.
Et comment continuer à ce que ce soit incitatif, Marie-Paul Kieny, pour les laboratoires de se lancer dans la recherche d'un vaccin ?
Alors, malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, les laboratoires ne sont plus intéressés s'il n'y a pas des revenus faramineux. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a, comme on l'a déjà dit, une financiarisation du système qui fait que les investisseurs de ces sociétés sont essentiellement, ou pour beaucoup en tout cas, des fonds de pension américains ou d'autres. Et donc, ce qui intéresse ces fonds de pension, ces investisseurs, c'est d'avoir absolument d'extraire le maximum d'argent de ces sociétés. Et donc, on voit de plus en plus que ces sociétés, en fait, quand elles font du profit, elles en font, elles l'utilisent pour racheter leurs propres actions plus qu'investir dans la recherche. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de vraiment regarder dans le détail les dérives en fait du système qui a été mis au point au fur et à mesure des années, et essayer de revenir vers un aspect plus comment dirais-je, vers un aspect, je dirais pas plus moral, parce que je ne vais pas dire que l'argent est immoral, mais sur une façon de voir la situation autrement, puisque c'est la plupart des découvertes sont faites par le secteur public avec de l'argent public. Il faut que le public, et donc le payeur public et les malades publics, aient un meilleur retour sur ces investissements.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui ? Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, une suspension temporaire des brevets, Nathalie Coutinet, c'est ce qu'ont proposé certains États comme l'Afrique du Sud ou le Brésil.
Sur le vaccin Covid.
Et l'Inde, rajoute Maurice Cossier.
Oui, tout à fait. Sur le vaccin Covid, effectivement, il y a une inaction des États qui est assez surprenante, hein. Enfin surprenante, mais en même temps, on comprend bien que chaque État développé protège sa propre industrie pharmaceutique. Mais il existe des dispositifs, hein, même sans aller jusqu'à supprimer la propriété intellectuelle sur ce vaccin, il existe un mécanisme qu'on appelle de licence obligatoire, hein, ou licence d'office, on dit en France, qui permet, pour des raisons de santé publique, à un État, eh bien, de demander le brevet contre une rémunération modeste, enfin modérée, hein, pour son détenteur. Donc, il est surprenant effectivement qu'aujourd'hui, aucun État de pays développé ne s'insurge, hein, contre ces brevets qui organisent finalement, dans le cas présent, la pénurie de vaccins.
Mais est-ce que ce n'est pas excessivement compliqué, Maurice Cassier, de mettre en place justement cette procédure de licence obligatoire ou licence d'office qui permet de contourner les brevets en cas d'urgence ?
Alors, Tout d'abord, les licences d'office, on les a, et obligatoires, on les a utilisées assez largement ces dernières 20 dernières années pour développer des médicaments génériques, notamment contre le VIH-Sida. Il y a un décompte qui a été fait dans un bulletin de l'OMS. Entre 2002 et 2016, il y a environ une centaine de licences obligatoires ou d'office qui ont été prises dans ce cadre-là. Donc, on sait faire. Le Canada, dans les années 80, il a pris plusieurs centaines de licences obligatoires pour organiser la production de médicaments génériques. C'est pour ça qu'au Canada, actuellement, les médicaments sont moins chers.
Alors, comment expliquer que ça bloque aujourd'hui ?
Alors, ce qui bloque, mais toujours, et ce qui est d'une façon un peu normale, c'est-à-dire que d'abord, la licence d'office, la licence obligatoire, c'est dans les droits de propriété intellectuelle. C'est pas une invention, un deus ex machina. C'est un processus d'autorégulation du droit de la propriété, qui est dans le code de la propriété industrielle, ou dans le code des accords de l'OMC. Donc, on sait faire, mais évidemment, chaque fois, on a une énorme pression des laboratoires propriétaires, particulièrement des États-Unis, de la Suisse, de l'Europe, pour faire pression sur les États, parce que, en fait, la licence obligatoire, c'est les États, les autorités publiques, qui reprennent la main pour redistribuer la technologie. En fait, la licence obligatoire, c'est un pouvoir redistributeur de technologie.
Donc aucun État ne veut affaiblir son laboratoire national, ses laboratoires nationaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... mais ce qui est nouveau avec le Covid, quand même, et pas seulement avec le Covid, c'est qu'on y est confronté aussi avec les anticancéreux ou aussi avec les antiviraux contre l'hépatite C il y a quelques années, et encore aujourd'hui. C'est que ces questions gagnent aussi les nords. Pourquoi ? Parce que le prix des médicaments qui sont brevetés et dont on demande donc des rendements très élevés, en fait, ils déstabilisent aujourd'hui les payeurs publics et sociaux, la sécurité sociale, et donc on atteint des limites là. Donc, ce qui est intéressant, et je trouve, alors, là, pour moi, là, une note nouvelle, c'est la prise de position du directeur général de l'OMS, et c'est la première fois, à mon sens, depuis toutes ces années, qui en faveur de mesures de suspension des brevets pour faire face à la pandémie. Et ça, c'est nous. Donc il y a des éléments du débat qui progressent au sein de l'Union européenne, qui progressent aussi aux États-Unis, on a des économistes qui font des propositions intéressantes, et aussi au niveau de l'OMS.
Marie-Paul Kenny, sur les évolutions possibles de ce droit de la propriété intellectuelle.
Oui, alors bon, c'est sûr que les pays, disons, du Nord, ou du G7, pour dire autrement, ne sont pas du tout favorables à ces levées de brevets. Alors, il faut savoir aussi que il existe aussi, et ça a été utilisé essentiellement aussi dans le domaine du VIH dont on parlait, des brevets qui sont des brevets volontaires. Hein, et je suis la présidente du conseil d'administration d'une fondation qui s'appelle le Medicines Patent Pool, donc c'est la communauté des brevets, qui maintenant, depuis maintenant une dizaine d'années, en fait, négocie des licences qui sont dans l'intérêt de la santé publique auprès de ce qu'on appelle les originateurs, donc les big pharma, hein, pour les sous-licencier à des producteurs génériques. Et ça, on a fait ça dans le domaine du sida, dans le domaine de la tuberculose, etc. Et en fait, ça amène effectivement à une diminution de prix très très importante de plusieurs ordres de grandeur à cause de la compétition qu'on peut générer. Alors, je crois qu'il faut, dans un premier temps, regarder ce qui est possible de faire par des brevets volontaires avant de sortir tout l'arsenal. Mais quand on voit les vaccins Covid, ce qui se fait maintenant, si on veut avoir du vaccin tout de suite, et l'OMS est en train de faire une étude là-dessus et de proposer à donc l'initiative ACTA, vous savez, qui a été créée pour améliorer l'accès aux produits pour le Covid pour tous les pays et surtout pour les pays pauvres. L'OMS est en train de mettre en place une initiative pour augmenter les capacités de production, et l'analyse qui a été faite, c'est que dans la plupart des pays, actuellement, il n'y a pas de blocage par les brevets pour faire des vaccins ARN. les blocages sont des blocages technologiques, de connaissances, etc. Et on va essayer de s'attacher à créer des centres de technologie de transfert pour ça. Mais les facteurs bloquants ne sont pas toujours les brevets. Parfois, ce sont les brevets, mais dans ce cas-là, pour les vaccins ARN dans les pays à revenus limités, ce sont plutôt d'autres obstacles.
On va poursuivre notre discussion sur cette industrie pharmaceutique et notamment sur les difficultés de production et de distribution de ces vaccins. Mais d'abord, je voudrais vous faire entendre un chanteur brésilien qui a repris un de ses titres en changeant les paroles pour encourager justement les Brésiliens à se faire vacciner. La chanson s'appelle Vacina Butantan, du nom de l'institut chargé de la production du vaccin chinois Coronavac au Brésil.
Vacina envolvente que medicamente, quem tá presente? A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai no bumbum, tan, tan. Vem no bumbum, tan, tan, tan. Vai, vai no bumbum, tan, tan. Vem, vem no bumbum, tan, 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 tan. Vai no bumbum, tan, tan. Vem, vem no bumbum, tan, tan. Vai no bumbum, tan, tan. Vem no bumbum.
No bumbum.
Vai bem no bumbum, tan 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 tan
tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
tan
tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente, eu falei assim pra ela, vai pai no bumbum, tan tan, vem no bumbum, tan tan tan, vai pai no bumbum, tan tan, vem, vem no bumbum, tan 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 tan, pai no bumbum, tan tan, vem, vem no bumbum, tan tan, pai no bumbum, tan tan, vem no bumbum,
France Culture. Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
L'industrie pharmaceutique à l'épreuve de l'urgence, c'est notre sujet. Aujourd'hui, dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de la présidente du comité vaccin Covid-19, Marie-Paul Kieny, et des économistes Maurice Cassier et Nathalie Coutinet. Alors, les laboratoires pharmaceutiques ont-ils une nationalité en raison des financements publics? Est-ce qu'ils ont tendance à privilégier leur marché national, Nathalie Coutinet?
Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question. Pfizer, oui, on voit que le vaccin Pfizer est beaucoup plus disponible aux États-Unis que partout ailleurs, et en particulier en Europe. D'une certaine manière, c'est plutôt les financeurs qui vont pouvoir disposer des molécules. Et là, c'est assez clair que les pays qui ont le plus financé un certain nombre de recherches, eh bien, récupèrent finalement une grosse partie des vaccins. Alors, quand je dis financer, ça peut être la recherche, comme ça a été dit au départ. Il y a aussi des financements pour la mise en route de la production qui a pu passer, par exemple, par des précommandes ou des choses comme ça.
C'est ce qui explique qu'AstraZeneca ne devrait livrer que 34 millions de doses sur les 120 millions promises à l'Europe, Nathalie Coutinet?
Alors non, c'est pas ça qui explique. Ce qui explique, ça peut en faire partie. C'est sûr que AstraZeneca livre en premier la Grande-Bretagne et qui l'a largement financé. Après, il y a aussi des histoires entre pays. Il y a aussi des problèmes logistiques qui se sont produits. Il faut voir que les gros laboratoires qui produisent ces vaccins sont face à un défi industriel absolument inédit. Parce qu'il faut produire en un temps record des quantités de vaccins extrêmement importantes. Et ça n'a jamais, personne n'a jamais été confronté, enfin à ma connaissance, à un défi aussi important. Donc il y a aussi des défis industriels qui, sans doute, sont à l'origine des retards. Mais il y a aussi des histoires politiques de qui on a un certain nationalisme vaccinal qui joue malgré tout, même si la stratégie européenne de faire des précommandes groupées a essayé de lutter un petit peu contre ces stratégies nationales, on voit quand même un retour des stratégies nationales de plus en plus importantes.
On a le sentiment, Maurice Cassier, parfois que la course au vaccin nous renvoie à la course aux armements ou à la course à l'espace pendant la guerre froide. Ce sont des analogies qui vous paraissent pertinentes?
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis donc ont véritablement effectivement une stratégie extrêmement offensive sur l'appropriation des vaccins, à la fois par les contrats de précommande, évidemment, qui sont très importants, mais il y a une quinzaine de jours, Joe Biden a convoqué à la fois Merck et Janssen en sortant le Defense Production Act pour dire à Merck, bah, vous ne produisez pas de vaccin aujourd'hui, il va falloir produire celui de Janssen. Donc, je mets 100 milliards dans la balance pour reconvertir les lignes de production. Mais on voit bien, et d'ailleurs, les livraisons de Janssen qu'on attendait en Europe pourraient éventuellement donc en souffrir un peu.
C'est ce que j'allais demander. En effet, Marie Palkhini, on peut s'inquiéter d'éventuels retards, difficultés de livraison de ce vaccin de Johnson & Johnson que l'Agence européenne des médicaments a autorisé la semaine dernière?
Oui, alors on voit qu'en fait, Janssen et Janssen n'ont pas encore tout à fait, comment dirais-je, pivoté hein, sur des capacités de production très importantes, et donc on ne doit pas s'attendre à avoir en Europe des très grandes quantités de vaccins Janssen pour en tout cas dans les premières semaines. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette stratégie très offensive, comme il a été dit par des Américains, n'est pas uniquement une stratégie pour la Covid-19. Les Américains ont mis en place, il y a, je sais pas, je dirais au moins plus d'une vingtaine d'années, une initiative dont on parle parfois aussi qui s'appelle BARDA, et donc qui est une agence qui dépend du ministère de la Santé et qui investit des sommes énormes avec un appui bipartisan, donc les deux grands partis américains, et des sommes énormes dans le développement de ce qu'ils appellent des contre-mesures, donc ce sont des diagnostics, des médicaments, des vaccins contre tout ce qui pourrait constituer un risque, enfin une menace pour le citoyen américain, que ce soit des agents infectieux, que ce soit des risques nucléaires, chimiques et autres. Donc en fait, cet investissement du gouvernement majeur de milliards de dollars par an est déjà ce qui a d'ailleurs permis de développer un certain nombre de plateformes. Et la plateforme, les plateformes de Novavax, par exemple, est une plateforme qui a été financée par la BARDA pendant des années. Et donc les producteurs ont une dette vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de ça. Et c'est clair qu'une des conditions de ces gros financements était que les États-Unis aient un traitement préférentiel.
Du côté de l'Europe, c'est plus compliqué. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu elle-même avoir sous-estimé les difficultés de la production et de l'acheminement des vaccins. Écoutez.
À juste titre, nous étions tous très concentrés sur le développement du vaccin. Mais globalement, nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. C'est une grande réussite scientifique. Nous devrions en être fiers. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie.
Le mea culpa d'Ursula von der Leyen, c'était le 10 février dernier. La science a donc dépassé l'industrie. Nathalie Coutinet, c'est la production et la logistique qui pêchent aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, indéniablement. Alors c'est quand même surprenant, j'avais pas entendu cette déclaration, mais c'est quand même très surprenant de ne pas avoir anticipé ces difficultés qui pourtant semblaient évidentes. Hein.
Bon, car l'Europe manque de sites de production, c'est cela?
Bah oui, enfin l'organisation, la logistique, surtout encore particulièrement pour le vaccin Pfizer-BioNTech qui nécessite des conservations à des températures extrêmement froides, qui a en plus un conditionnement à plusieurs doses, comme c'est le cas d'autres vaccins. Donc évidemment qu'il y avait une logistique de production et ensuite une logistique de distribution qui était tout à fait particulière et que c'était pas un vaccin contre la grippe qu'on allait garder 3 jours dans son frigidaire. Et bon, donc il y avait quand même des difficultés qui ont été assez rapidement posées et je suis étonnée. Et là, effectivement, on a un problème de production important, mais qui est aussi entretenu par le fait que les firmes ne distribuent ou ne distribuent qu'au compte-gouttes les licences obligatoires. J'ai du mal à croire qu'aucun acteur français ne serait en mesure de produire du vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson qui ne requiert pas de technologie particulière.
Mais alors justement, Sanofi devrait aider à fabriquer les vaccins de ses concurrents. Maurice Cassier, est-ce qu'on dispose des sites de production en Europe qui nous permettraient de fabriquer davantage de vaccins?
Mais l'Europe, c'est un des principaux lieux de production de vaccins dans le monde. Donc, sur le plan de la production et depuis longtemps. Et pourquoi ça? C'était justement, ça nous renvoie au début de la conversation, parce qu'aux États-Unis, dans les années 80-90, des labos comme Pfizer et Merck, qui se sont retirés de l'industrie des vaccins. Tandis que l'Europe, elle continuait, adossée sur ses marchés publics nationaux, donc à développer son industrie. Donc, c'est pas un problème, à mon sens, de capacité. Il y a un problème de distribution des technologies. Et il est évident que là, je pense effectivement, alors là on pourrait avoir une discussion peut-être entre nous, je pense que les licences volontaires, ça peut avoir une certaine efficacité, mais on voit la limite aujourd'hui de la distribution des licences volontaires. En fait, le pool qui a été monté par l'OMS pour récolter donc les technologies Covid, il reste vide. Donc là, je pense que les licences obligatoires auraient un pouvoir, y compris en Europe, de redistribution des sites, d'autant que Sanofi, on sait qu'ils développent en ce moment, et ça vient en priorité, un des vaccins ARN messager. Je pense que il est évident que Sanofi doit préparer ses lignes de production, comme l'ont fait les autres. Donc, pour le moment, il remplit les bouteilles, les flacons, il conditionne les flacons de Pfizer et bientôt, donc, si mes souvenirs sont bons, de Janssen. Mais on pourrait mobiliser beaucoup plus nos capacités de production. Mais il faut avoir le pouvoir de redistribuer.
Ce n'est pas un problème de ligne de production pour vous non plus, Marie-Paul Kenny, mais de redistribution de technologie, comme le disait Maurice Cassier.
Alors, c'est vrai, mais ce qu'il faut se voir aussi, c'est qu'en fait, aidé d'ailleurs par les pouvoirs publics qui ont essayé d'identifier les sites de production, il y a maintenant, chacun des vaccins ARN, par exemple, a maintenant un site de production en France, soit Moderna, Pfizer, CureVac, et d'autres en Europe. Donc le travail a été fait. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour ces productions, ça n'a pas été, cette production n'est pas arrangée sous forme de licence, mais est arrangé sous forme de la participation au flaconnage sous licence donc des sociétés elles-mêmes, en sachant que pour ces vaccins-là, c'était et ça restera encore pendant quelques semaines, je pense, la partie la plus bloquante était la capacité justement de mettre en flacon. Donc ce sont des choses qui sont faites, et on voit déjà que les grands producteurs cèdent les uns les autres, alors que d'habitude ils sont concurrents. Mais il faut dire aussi que non seulement, d'abord c'est utile parce que ça va nous permettre d'avoir plus de vaccins, deuxièmement ça a été forcé par les gouvernements, mais aussi c'est une façon pour ces grosses sociétés de démontrer ou d'essayer de démontrer que leur modèle marche pour tous les cas et qu'en fait il ne faut pas y toucher.
Mmh. Comment la Commission européenne peut-elle faire pression sur les laboratoires, que ce soit AstraZeneca, Johnson & Johnson, pour qu'ils honorent leurs engagements, justement, en termes de livraison, Nathalie Coutinet?
C'est compliqué, parce que là, on voit bien que le pouvoir, il est quand même plutôt du côté des firmes. Hein, et que quoi que disent les personnalités européennes, les acteurs ne bougent pas beaucoup. Alors, ils sont protégés, comme ça a été dit par Monsieur Cassier, par les autorités américaines qui du coup bloquent, mais en même temps font pas non plus beaucoup d'efforts pour honorer les commandes. Et le problème de ces monopoles absolus, comme ça a été rappelé, c'est que tout le pouvoir est en main des firmes. Qu'est-ce que pourrait faire un État? Imaginez un État qui dirait non, je ne veux pas céder aux conditions que vous m'imposez. La contrepartie, c'est quoi? C'est que la population n'aurait pas accès au vaccin. Et c'est évidemment politiquement totalement instable.
La Commission européenne a... Oui, je vous laisse poursuivre, pardon.
Non, mais on voit bien à quel point, ne serait-ce que là, il y a un pouvoir énorme à cause de ces brevets qui est donné aux acteurs. Et ça, c'est effectivement un problème qui me semble un problème majeur. Mais effectivement, il y a des entreprises françaises qui aident au flaconnage. Mais pourquoi au flaconnage? Aussi parce que c'est pas sensible, le flaconnage. Il n'y a pas de transfert de technologie dans du flaconnage. Tous les acteurs savent faire ça. Et on voit bien qu'il y a aussi un problème de transfert de technologie qui ne se fait pas, qui ne veut pas se faire, Et effectivement, si les firmes lâchent un petit peu, c'est aussi parce qu'on n'a jamais autant parlé dans la presse, dans le grand public, du poids de ces brevets et à quel point ces brevets empêchaient l'accès au traitement. Alors, dans les pays du Sud, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, même si c'est loin d'être parfait. Mais comme ça a été dit, ce problème d'accès au traitement, il vient maintenant dans les pays du Nord, soit parce qu'il n'y a pas de traitements qui sont développés, soit parce que dans un certain nombre de pays du Nord, tous les médicaments ne sont pas pris en charge aussi bien que pour le moment chez nous encore, et que donc il y a aussi des populations du Nord qui souffrent de l'absence de traitement en raison de ces brevets mondiaux.
Alors l'Union européenne, Maurice Cassier, a tout de même cherché à négocier les meilleurs prix. Qu'est-ce que ça nous dit du rapport de force avec les laboratoires et est-ce qu'il faut relier ces prix bas qu'elle a, semble-t-il, réussi à négocier avec les difficultés de livraison que l'on connaît aujourd'hui?
Alors, il peut y avoir effectivement des exportations ou des livraisons préférentielles en fonction des prix. Mais je voudrais insister sur un point, sur les contrats. Je pense que y a vraiment une asymétrie de pouvoir entre l'Union européenne et les États membres et l'industrie, à la fois sur le point des brevets et du partage des technologies. Je pense qu'il serait beaucoup plus efficient, effectivement, qu'il y ait une coordination et un partage des technologies sous l'autorité des États avec suspension des brevets. Et la deuxième point, c'est que dans les contrats, en tout cas, on en a un qui a été rendu public, c'est AstraZeneca, suite à une confrontation entre la présidente de l'Union européenne et AstraZeneca, c'est que dans les contrats, il y a un article, qui est l'article 5.4, si ma mémoire est bonne, qui prévoit que si le contractant industriel ne livre pas donc ce qui a été prévu, les États membres et l'Union européenne ont le pouvoir de proposer un autre industriel. Mais le problème, c'est qu'on est dans une... Si vous voulez, soit on utilise son pouvoir d'État, à la fois pour redistribuer la technologie, pour négocier avec l'industrie, soit comme Biden a fait avec Merck et Janssen, en disant « c'est le Defense Production Act, vous arrangez ». Mais ce qu'on ne fait pas, quand on voit... Enfin, il y avait presque des aspects... C'est un peu vraiment désolant, quoi. Donc notre secrétaire d'État à l'industrie envoie des tweets, mais alors, donc ils nous trahissent, etc. Mais en fait, il y a vraiment, on accepte, en fait, d'être plutôt le relais de l'industrie que négocier avec elle.
Mais alors quoi? Est-ce qu'il faut lancer davantage l'offensive juridique, Marie-Paul Kenny? L'Union européenne peut se servir de ses outils juridiques pour arriver à faire pression sur les laboratoires?
Alors, oui, en principe, mais en fait, comme vient d'être dit, il y a un biais de pouvoir, un biais de connaissance, un biais énorme. Alors, quand j'étais encore à l'OMS il y a quelques années, on avait lancé une initiative qui s'appelait Fair Pricing, donc ça veut dire pour un prix juste, hein, et qui visait à vouloir discuter avec l'industrie de savoir qu'est-ce que c'était qu'un prix juste. Et un prix juste, c'est pas forcément un prix bas, mais pour savoir quel est un prix juste, il faut d'abord savoir quel est le prix. Et il faut savoir aussi qu'est-ce qui entre dans le prix. Et là donc, il y a eu beaucoup de discussions et l'industrie freine absolument de tous ces fers pour que, en fait, à la fois les investissements dans la recherche et développement et le prix du médicament restent une boîte noire. Donc, comment peut-on négocier avec l'industrie quand on ne sait pas quels sont les vrais coûts de l'investissement recherche et surtout de l'investissement de la part du secteur public et qu'on ne sait pas combien les vaccins sont vendus. Vous avez vu les vaccins, n'importe quel médicament innovant. Vous avez vu que ça fait un peu du bruit parce que il y a effectivement quelqu'un en Europe, c'était une ministre belge qui a mis dans un tweet le prix des vaccins Covid qu'avait payé l'Europe, mais c'était censé rester des secrets. Tous les prix des médicaments innovants sont des secrets. Et pourquoi? Parce que l'industrie le demande et puis ceux qui acceptent le secret, on leur dit tu dois garder le secret parce que que tu sais bien, on te donne le meilleur prix, et donc si on le dit aux autres, ils vont vouloir le même prix, etc., etc. Et donc, en fait, c'est comme dans les médicaments, c'est comme pour Boeing ou pour Airbus. Il y a le prix catalogue, mais en fait, personne ne paye ce prix. Donc, on a un déséquilibre complet de pouvoir, de connaissance, de transparence, qui fait qu'en fait, les négociations avec les industries sont extrêmement difficiles à cause de ça.
Alors, est-ce que l'Europe pourrait s'engager dans une augmentation de la production de vaccins sur son sol? Est-ce que c'est une solution? En tout cas, c'est le plan qui a été lancé par la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui était chez Europe 1 le 8 janvier dernier. On l'écoute.
Nous avons l'usine de Recipharm qui est implantée en France, qui va produire le vaccin Moderna fin février, début mars. Nous aurons ensuite Delpharm et Fareva qui suivront. Delpharm pour le vaccin de BioNTech et Fareva pour le vaccin CureVac si celui-ci obtient la mise sur le marché. Ce sont des chaînes de production qui sont européennes et nous avons veillé à cela. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous prenez le vaccin Moderna par exemple. Le site où est réalisé le principe actif, il est en Suisse. C'est celui qui a les plus grandes capacités de production d'ARN quasiment en Europe. On a choisi ça. Et Moderna l'a choisi pour des raisons d'efficacité. Mmh. Et ce site sert l'ensemble des pays européens. En revanche, la mise en bouteille est effectuée dans plusieurs autres pays, en l'occurrence l'Espagne et la France. Et nous allons servir évidemment le marché français pour des raisons logistiques, ça sera plus simple, mais l'ensemble du marché européen. Et c'est cette solidarité qui permet d'avoir cette organisation qui est la plus efficace possible.
La production de vaccins va-t-elle augmenter sur le sol européen, Maurice Cassier? Et est-ce que c'est susceptible d'accélérer cette campagne vaccinale européenne qui a pris du retard?
D'abord, ce qui est assez remarquable, vous faisiez référence au début de l'émission à la vitesse du développement des vaccins, il y a en fait une vitesse aussi de l'installation des capacités industrielles. Parce que, par exemple, si on prend les vaccins ARN, ils n'avaient jamais été produits jusqu'à présent, et en 6 à 8 mois, les laboratoires comme Moderna, qui n'avaient pas elles-mêmes de capacité de production, ou alors très minime, ont organisé en fait des réseaux industriels, soit des partenariats, soit des réseaux de sous-traitance en Europe, aux États-Unis. Donc tout ça est allé assez vite, y compris en transférant la technologie. Donc ça peut aller assez vite. Donc je pense qu'on pourrait mobiliser davantage avec effectivement une coordination publique plus importante, à la fois des sites, mais on est plus fort pour trouver de nouveaux sites. Si on est en mesure de partager la technologie, parce que Agnès Pannier-Runacher, elle mentionne ce qui a été dit par Nathalie Coutinet, c'est-à-dire dans la chaîne de valeur, le conditionnement, c'est pas la technologie la plus essentielle.
Mais est-ce que les chaînes de production ne sont pas déjà bien remplies par la production des vaccins obligatoires? Et est-ce qu'il faut alors, Marie-Paul Quigny, réquisitionner de nouvelles usines en France pour établir de nouvelles lignes de production?
Bon, alors il faut savoir que les chaînes de production qui font ces nouveaux vaccins, ces vaccins Covid, ne sont pas celles qui font les vaccins de l'enfance, hein, puisque on voit que beaucoup de ces producteurs ne sont pas des producteurs de vaccins traditionnels. Le producteur en Europe pour Moderna n'est pas un producteur de vaccins. Celui qui produit le vaccin de Moderna, c'est Lonza, une société en Suisse qui n'est pas un producteur de vaccins. Les producteurs pour le vaccin Sputnik, pour parler à l'étranger, bien sur les 15 sous-traitants de Gamaleya, 14 ne sont pas des producteurs de vaccins. Donc, ces technologies nouvelles peuvent être produites en fait chez des producteurs qui n'ont pas traditionnellement fait des vaccins. Donc, ça c'est quelque chose qui ouvre beaucoup la donne. Mais il faut voir que ce qui est prévu. Alors, je voudrais pas être à l'opposé et me mettre contre l'intérêt du transfert de technologie. En fait, j'ai travaillé dans ce domaine pendant toute ma vie et je suis pour le transfert de technologie et pour le partage des brevets, il n'y a aucun doute là-dessus. La seule chose, c'est que dans un délai très court, un transfert de technologie complet, qui n'est pas uniquement le flagonnage, ça prend des mois. mois. Alors, il faut le faire quand même, et l'OMS a une initiative là-dessus, mais dans le court terme, c'est effectivement surtout le flaconnage et des accords entre des grosses boîtes qui vont nous permettre d'avoir de maximiser. Il faut voir déjà que dans les prévisions du gouvernement d'approvisionnement en France, on attend d'avoir une multiplication d'un facteur 6 entre février et juin, avec les derniers chiffres annoncés par les producteurs. Donc là, quelque part, au moins en France, pas pour les pays à revenus limités, mais au moins en France et en Europe, l'extrême tension qu'on voit actuellement sur l'approvisionnement devrait diminuer, ce qui n'est pas pour en fait négliger effectivement le fait qu'il faut repenser autrement notre industrialisation et le partage des connaissances et des brevets.
Une tension qui va diminuer, nous dit Marie-Paul Kieny, sauf peut-être s'il y a une pénurie de matières premières. Ça, c'est une véritable inquiétude de Nathalie Coutinet, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'enzymes qui n'ont jamais été fabriquées à une telle échelle industrielle. Et puis, il pourrait y avoir aussi des pénuries de verre, de plastique pour les bouchons, pour fabriquer les flacons. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est susceptible de poser problème?
Alors, effectivement, c'est quelque chose, notamment les flacons, dont on parle depuis le début. On n'a pas d'informations très précises sur ces questions-là. C'est effectivement une possibilité. C'est qu'on manque de matières premières. Encore une fois, le défi... Après, il y avait deux grands défis à relever. Il y avait évidemment le défi de découvrir un ou plusieurs vaccins, et puis ensuite, il y avait le défi de le produire. On est maintenant à la fois dans les deux, finalement, hein, mais surtout dans le deuxième défi. Et ce deuxième défi, c'est pas seulement avoir des usines, c'est aussi effectivement avoir des matières premières, etc. Je voudrais juste, si vous m'autorisez, revenir une seconde sur ce qui a été dit tout à l'heure, et ça me semble important. On n'a pas de transparence, et l'analogie a été faite avec l'industrie aéronautique. Mais il faut rappeler, et on ne l'a pas rappelé, je crois, parce que c'est évident pour nous, on est quand même dans un secteur qui est un secteur très particulier, parce qu'on touche la santé publique. On touche donc un bien essentiel qui est la santé, qui a même été déclaré comme un bien commun. Et donc, on ne peut pas, et c'est sans doute là le problème majeur, on a une industrie qui est dans un secteur très important, la santé des gens, la vie, et on a confié, c'est un personnel, hein, il a été confié la production de biens essentiels, aussi essentiel à des entreprises industrielles qui suivent des logiques de capitalisme financiarisé. Et on voit bien que là, on a un problème de cohérence entre ces deux logiques.
On voit bien qu'effectivement, c'est compliqué, ce mélange peut-être d'intérêts publics et privés autour d'un bien aussi essentiel qu'un médicament ou un vaccin. Maurice Cassier, ce sera le mot de la fin.
Oui, mais alors justement, sur ce sujet de la transparence, il faut évoquer quand même la résolution de l'OMS en mai 2019, promue par un certain nombre d'États, pour promouvoir la transparence des prix des médicaments, notamment quand il y a des investissements publics. Et je rappelle que le Parlement français, en novembre 2019, avait voté un amendement en ce sens, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais pour des raisons de forme, mais et d'autre part qu'il y a une véritable pression des associations de patients, de différentes organisations pour aller vers cette transparence des prix.
Et donc vous croyez qu'on pourra y arriver?
En tout cas, ce que je pense, c'est que les institutions de recherche publique qui développent des innovations devraient, dans les contrats de transfert de technologie, effectivement, il faudrait l'associer à des clauses de surveillance de la transparence des prix.
Eh bien, grand merci à tous les trois, Maurice Cassier, Nathalie Coutinet, de nous avoir éclairés sur le fonctionnement de cette industrie pharmaceutique et de nous avoir renseignés sur ce vaste marché des vaccins. Je rappelle, Maurice Cassier, que vous êtes économiste et sociologue, directeur de recherche au CNRS, Marie-Paul Kieny, vaccinologue et présidente du comité vaccin Covid-19, et Nathalie Coutinet, économiste à l'université Paris 13.
Si el tiempo no pasara, yo solo vivo de ilusión. Son tantos los sueños que tengo, no caben en una canción.
Un grand
grand merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Margot Boult à la réalisation, Anne de Pelchin à la technique aujourd'hui, Jean-Frédérix. La semaine prochaine, c'est Marguerite Caton, la productrice adjointe de l'émission, que vous retrouverez à ce micro pendant que je prendrai quelques jours de repos. Elle vous proposera une série consacrée à l'économie des territoires. D'ici là, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
France Culture. L'esprit d'ouverture.